Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent en Laine, l'Oise, la Somme, et graphite.net sur internet. Pour ceux qui nous suivent en direct ou en différé, bien sûr, vous avez tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite que vous pouvez récupérer sur le site internet, bien sûr, et vous suivez l'actualité de Graphite sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et ainsi de suite, bien sûr. Biotine, l'émission d'actualité scientifique, c'est tous les samedis, rediffusion le mardi matin à 10h. On fait un petit peu le point sur la revue de presse de l'actualité scientifique. On essaye de s'informer un petit peu sur ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier, bien évidemment. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour ce samedi 30 mars. Déjà, ça passe à une vitesse. Au niveau de l'éphéméride, le 30 mars 1842, l'éther est utilisé pour la première fois comme anesthésique. C'est un médecin américain, le docteur Crawford Long, qui l'utilise en 1842. Je ne pensais pas que c'était si loin, quelque part, qu'on utilisait l'éther. En 1907, Gabriel Voisin vole sur 60 mètres à Billancourt grâce à un avion biplan de sa fabrication équipé d'un moteur de 50 chevaux. C'était le 30 mars 1907. Naissance, un 30 mars 1754, de Jean-François Pilâtre de Rosiers, scientifique français des Lumières et l'un des deux premiers aéronautes de l'histoire. Et décès, le 30 mars 1886, d'Hélène Harding Baker. C'est une astronome et une professeure américaine. Elle est célèbre pour sa courte pointe du système solaire qu'elle utilisait comme outil pédagogique dans ses cours sur l'astronomie. Quand elle était professeure, elle avait cette courte pointe, une espèce de, comment dire, couverture, mais qui était finalement, qui représentait sa façon à elle d'être un support pour ses cours d'astronomie. Et voilà, c'est intéressant, c'est assez rare en fait quand on fait l'éphéméride de mettre en avant des personnalités féminines au niveau scientifique, et donc c'est le cas avec le décès le 30 mars 1886 de cette astronome américaine Hélène Harding Baker. Alors, au niveau de l'actualité, pas mal de choses. Alors, j'avais ces deux petites informations qu'on va... c'est un peu la période de Pâques, on va se faire plaisir, on va parler des animaux. Et on va parler d'imagination, hein. C'est sans doute l'une des qualités les plus remarquables qu'il était donné aux êtres humains. Et surprise aujourd'hui, il y a des chercheurs d'un institut médical Howard Hughes aux États-Unis qui nous révèlent dans les pages du journal Science que nous ne sommes pas les seuls animaux à avoir reçu ce don d'imagination. Les rats, eux aussi, peuvent faire preuve d'imagination. L'histoire de cette incroyable découverte a commencé il y a 9 ans, au moment où, sous l'impulsion d'un tout jeune chercheur, il y a des équipes donc de cet institut médical qui ont commencé à travailler au développement d'un système permettant de comprendre ce que pensent les animaux. Une sorte de détecteur de pensée en temps réel, capable de mesurer l'activité neuronale et de traduire ce qu'elle signifie. C'est un exploit en soi, et au cœur du système, on utilise ce qu'on appelle une interface cerveau-machine qui établit en fait un lien entre l'activité électrique au niveau du rat et sa position dans un décor de réalité virtuelle. On va précisément s'intéresser à l'hippocampe. L'hippocampe, parce que c'est la zone du cerveau responsable de la mémoire spatiale. Et c'est là que sont stockées les cartes mentales qui nous permettent de nous rappeler les événements passés et d'imaginer des scénarios pour le futur. Et donc, les chercheurs espéraient pouvoir savoir si un rat est capable d'activer son hippocampe à volonté pour penser à un endroit sans s'y rendre physiquement. Si un rat est capable d'imaginer se rendre à un endroit, c'est ça qu'on a voulu tester. Et pour cela, il a encore fallu développer comme un genre de dictionnaire des pensées du rat. Donc c'était un vrai travail derrière, un dictionnaire qui permettait de décoder les signaux cérébraux qu'on enregistrait. Et pour associer des signaux à une activité, les chercheurs ont donc fait marcher le rat sur un tapis en traduisant ses mouvements en réalité virtuelle, et ils ont donc tout enregistré. Une fois qu'ils ont eu toutes ces données et qu'ils ont pu mettre le protocole en place, eh bien les chercheurs ont pu traduire l'activité de l'hippocampe du rat en mouvement dans la réalité virtuelle et de constater que l'animal utilise ses pensées pour naviguer vers une récompense en réfléchissant d'abord à l'endroit où il doit aller. C'est ce que nous faisons lorsque nous imaginons aller faire des courses au supermarché, que nous visualisons les endroits que nous traversons en cours de route avant même de quitter notre maison. C'est exactement la même chose en fait. Et un peu sur le même schéma, les chercheurs ont ensuite permis au rat de déplacer un objet vers un emplacement par la seule force de l'imagination, tout cela en contrôlant donc l'activité de son hippocampe. Ainsi, les travaux de ces chercheurs montrent que les rats peuvent contrôler leur activité de l'hippocampe avec précision et flexibilité. Et donc, comme nous, les humains, nous pouvons le faire, les rats sont également capables de maintenir une activité de l'hippocampe en maintenant leur pensée à un endroit donné pendant plusieurs secondes, ce qui peut sembler très long au regard de l'idée, peut-être un peu fausse finalement, que les scientifiques se font des capacités d'attention d'un rat. Et les rats sont, comme les humains, ils possèdent une certaine forme d'imagination, et c'est déjà une information totalement intéressante et assez innovante. Mais les chercheurs vont au-delà parce que, fort de cette réussite, ils espèrent pouvoir exploiter leur détecteur de pensée pour concevoir de nouveaux dispositifs de prothèses. Donc c'est là, bien sûr, intéressant, c'est de voir un petit peu les applications qu'on peut mettre par la suite. Mais voilà, un détecteur de pensée qui est mis en point par les scientifiques et qui montre que les rats ont de l'imagination. Eh ben, on n'aurait pas cru ça, hein, voyez. Comme quoi, on en découvre tous les jours. C'est ça qui est intéressant dans Biotine, c'est qu'on a pas mal d'informations assez inédites. Et là, sur les animaux, on a toujours des choses assez intéressantes, évidemment. Autre animal, on va parler du perroquet. L'homme parle et le perroquet répète. Hein, cet oiseau ne sait pas parler notre langue, mais il est capable d'imiter, avec parfois une exactitude assez stupéfiante. Si toutes les espèces de perroquets ne sont pas dotées de ce génie d'imitation, certaines espèces peuvent reproduire un grand nombre de bruits de la nature. Un perroquet qui parle est en fait un maître en imitation. En Amérique du Sud, les perroquets Amazon ont une ouïe très fines, ils savent imiter une quantité de sons et ils vivent dans une cacophonie permanente. Cependant, les reproductions sonores des perroquets ne sont pas un langage à proprement parler. Ils ont simplement développé une ouïe extraordinaire qui leur permet de reproduire les sonorités de leur environnement. Le perroquet, il est monogame, il reste avec la même partenaire durant toute sa vie et il doit donc développer une ouïe particulièrement fine pour reconnaître le cri de sa partenaire dans le brouhaha permanent qui l'entoure. Et il servirait également de son talent d'imitateur pour leurrer ses prédateurs. Ces oiseaux sont alertes, hein, ils s'avertissent au moindre soupçon de menace, si bien que dans la nature, il est très difficile d'étudier leur façon de communiquer au sein même de l'espèce. Ces oiseaux, donc, ils ont une ouïe fine, mais tous n'ont pas la même facilité à parler ou à imiter la langue humaine. Il existe plusieurs espèces de perroquets qui parlent. Les plus doués sont donc les Amazones, mais aussi le perroquet Jaco et le grand Eclectus. Le célèbre perroquet qui parle, Alex, mort en 2007, il pouvait prononcer 150 mots anglais et en comprenait plus de 1000. C'est quand même assez intéressant. Il était par exemple capable d'exprimer le nom de la couleur qu'on lui montrait. C'est fascinant. Et en revanche, ni Alex, ce perroquet un petit peu spécial, ni aucun perroquet qui parle à ce jour n'avait développé de capacité grammaticale, raison pour laquelle on ne peut pas parler de langage. En général, les perroquets sont des oiseaux qui peuvent vivre plusieurs décennies en captivité. Certaines espèces de perroquets, telles que les haras et les cacatoès, peuvent vivre entre 50 et 70 ans, voire plus dans certains cas. D'autres espèces, comme les perruches ondulées, ont une espérance de vie plus courte, hein, en général entre 5 et 10 ans en captivité. La durée de vie d'un perroquet dépend également de facteurs tels que les soins prodigués, bien sûr, l'alimentation, l'environnement et la qualité générale de vie de l'oiseau. Mais voilà, ils sont des imitateurs et ça, je trouve ça fascinant. Alors, je n'ai pas eu encore la curiosité, mais je pense qu'il doit exister des vidéos de ce fameux perroquet Alex, qui pouvait donc prononcer 150 mots anglais, était capable d'exprimer le nom de la couleur qu'on lui montrait. Moi, je trouve ça fascinant. Je regarderai s'il y a des vidéos qui permettent je sais pas, de voir cet exploit, c'est assez fascinant. Et peut-être que les perroquets écoutent Graphite, peut-être nous imitent, ça doit faire quand même bizarre tout ça, et peut-être qu'ils vont imiter The Gaslamp Killer, je vais y arriver, c'est le nom du groupe qu'on va écouter maintenant sur l'antenne de Graphite. Je vais y arriver, tout va bien se passer aujourd'hui. Octane Classics, c'était The Gaslamp Killer sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion les mardis matins à 10h. Et on va fêter cette année les 70 ans du CERN qui a vu le jour en 1954, un centre d'études de recherche nucléaire avec comme nom initial celui d'un organisme provisoirement constitué en 1952. On appelait avant le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Il s'agissait d'aider à la reconstruction de l'Europe et d'éviter la fuite des cerveaux vers les États-Unis, devenus les leaders des sciences et des technologies du nucléaire. Aujourd'hui, le CERN se nomme plutôt Organisation européenne pour la recherche nucléaire ou encore le Laboratoire européen pour la physique des particules, même si couramment on utilise encore l'acronyme CERN. Et on parle aussi du grand collisionneur de Hadron, le LHC, bien sûr. Tout le monde a probablement entendu parler du LHC comme d'un grand collisionneur circulaire enterré de 27 km de circonférence où des collisions de protons et de noyaux lourds permettent de reconstituer certains des phénomènes qui se passaient moins d'un millionième de seconde après le début du Big Bang et qui surtout a permis la découverte du fameux boson de Higgs. Les physiciens des particules du début des années 2000 étaient très confiants dans la découverte de nouvelles particules qui pouvaient constituer la fameuse matière noire gouvernant les galaxies. Et bien finalement, il n'en a rien été. Si ces particules existent, elles sont probablement plus lourdes que ce que l'on pensait, ce qui nécessite, pour avoir une chance de les découvrir, de monter à des énergies supérieures à celles qui étaient atteintes jusqu'à aujourd'hui dans les collisions de protons. Et donc un facteur 10 est envisagé pour atteindre, dans ce qu'on appelle au niveau des physiciens, les 100 teravolts. Donc c'est quand même énorme, hein, en vertu de la fameuse loi d'Einstein sur l'équivalence entre masse et énergie. Eh bien, 100 teravolts permettrait de créer 100 000 protons en une seule collision, ou moins de particules, mais bien plus lourdes qu'un proton, avec certaines probabilités de création pour les divers types de particules envisagées, celles que l'on connaît et que l'on voudrait mieux comprendre, et d'autres dont l'existence elle est postulée par de la nouvelle physique proposée depuis un demi-siècle environ. Mais pour pouvoir explorer tous ces territoires inconnus, eh bien, il faudrait un accélérateur de particules de 100 km de circonférence. Et il a déjà été appelé le FCC, le futur collisionneur circulaire. Ce projet, il est débattu depuis environ une dizaine d'années. Il y a quand même déjà eu plusieurs éléments, plusieurs articles qui ont été mené sur ce fameux projet. Il y a des réflexions autour de cette nouvelle aventure qui est proposée pour espérer d'en savoir un peu plus sur d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. C'est en fait un petit peu ces grandes questions que l'on souhaite avoir des réponses grâce à ces collisionneurs, grâce à ces accélérateurs de particules. Et donc ce FCC, ce futur collisionneur circulaire, fait à nouveau parler de lui car le CERN vient de confirmer que les études pour sa construction allaient bien se poursuivre avec un rapport sur sa faisabilité complète qui devrait être disponible à l'horizon 2025. Donc l'année prochaine, on en saura un peu plus. La balle sera alors dans le camp des décideurs à l'horizon 2028 cette fois-ci. S'ils donnent leur feu vert, eh bien le creusement d'un tunnel de 91 km de circonférence enfoui sous la Terre à 200 mètres de profondeur pourrait donc débuter, nous dit-on, en 2033. Dans le cadre du tunnel du LHC, donc celui qui existe là, qui fait, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai oublié, 27 km de circonférence, un collisionneur électron-anti-électron avait précédé sa construction. Une stratégie similaire sera mise en pratique qui devrait permettre d'étudier à partir de l'horizon des années 2040 les propriété de ce fameux boson de Higgs. Elle pourrait trahir la présence d'une nouvelle physique en s'écartant des propriétés attendues par ce qu'on a actuellement en termes de connaissances. Donc quelque part, si on veut en savoir plus, il va falloir avoir des nouvelles machines, en clair, c'est ça. Sinon, on ne pourra pas avancer, la recherche ne pourra pas avancer. Donc, on est vraiment dans l'idée de faire un nouveau aussi LHC géant, avec des collisions de protons qui remplaceraient alors à nouveau ce qu'on a envisagé et lancerait à l'horizon 2070. Donc on est quand même dans une cinquantaine d'années. Est-ce que ça en vaut la chandelle? On n'en sait rien. D'un point de vue économique, c'est quand même un coût astronomique parce que ce futur collisionneur circulaire pourrait coûter 20 milliards d'euros et rien ne garantit qu'il trouvera de la nouvelle physique. Les Chinois sont aussi dans la course, nous dit-on. Donc, quelque part, il va y avoir une course aux grands collisionneurs. Mais voilà, on se dit, est-ce qu'on est quand même quelque part sur quelque chose qui en vaut la peine? Oui, pour la science, mais on n'est pas totalement certain du résultat. En tout cas, voilà, le CERN confirme son projet d'un accélérateur de particules de presque 100 km de circonférence. Où est-ce qu'ils vont le construire? J'en sais rien du tout. Celui qui existe actuellement, il est, je crois, à cheval entre la Suisse et la France, il me semble. Donc, mais il fait que 27 km de circonférence. Là, 100 km, c'est énorme, en fait. Et voilà, bon. On suivra un petit peu ce projet un petit peu plus tard, parce que là, on est quand même sur des échelles de temps un petit peu plus grandes. Mais en tout cas, ça peut être vraiment intéressant à faire, à suivre, bien sûr. Au niveau médecine, on sait qu'il y a des traitements qui existent pour la maladie d'Alzheimer qui se concentrent principalement sur le ralentissement de la progression de la maladie. Il y a une récente étude publiée dans la revue JIC qui propose une méthode révolutionnaire. Elle vise à rétablir la mémoire perdue en agissant sur les synapses qui sont endommagées. Les synapses, donc c'est au niveau des neurones. Cette recherche met en lumière le potentiel d'une protéine particulière qui s'appelle la protéine Kibra. Et ce potentiel donc de la protéine Kibra dans la lutte contre la démence, et ça ouvre la voie à des traitements ciblés plus efficaces pour les patients. La maladie d'Alzheimer, elle est traditionnellement associée à l'accumulation de protéines plutôt toxiques. Toutefois, l'étude qui a été menée récemment adopte une approche un peu différente et se focalise sur la réparation des synapses. Les synapses, c'est les points de connexion entre les neurones qui sont essentiels à la mémoire. S'il n'y a pas de connexion avec les neurones, ça ne fonctionne plus en clair. Donc il faut maintenir cette connexion et la connexion se fait au niveau des synapses. Les travaux se basent donc sur cette fameuse protéine Kibra qui a été identifiée comme un acteur clé dans la formation des souvenirs au niveau des synapses. Les cerveaux affectés par Alzheimer présentent une carence au niveau de cette protéine Kibra, ce qui souligne donc son importance dans la maladie. Et en explorant comment les niveaux réduits de Kibra impactent la signalisation des synapses, les chercheurs ont découvert un mécanisme pouvant être ciblé pour restaurer justement cette fonction synaptique. Les résultats préliminaires indiquent que des niveaux élevés de protéine Kibra sont liés à la gravité de la démence. De plus, il y a une corrélation assez surprenante qui a été observée entre l'augmentation des protéines qui sont toxiques et qui s'accumulent et qui provoque Alzheimer et l'augmentation de la protéine Kibra qui met en évidence le potentiel de cette protéine Kibra comme biomarqueur d'un dysfonctionnement. Donc quelque part, on considère que si cette protéine est présente, on est dans un environnement pas génial en termes de déclin cognitif. L'étape suivante de la recherche, ça a consisté à tester l'efficacité d'une version fonctionnelle raccourcie de Kibra et on a fait ça sur des souris. Les résultats ont été prometteurs parce que cette protéine a non seulement inversé l'altération de la mémoire, mais aussi restauré la fonction des synapses sans aborder le problème de l'accumulation des autres protéines qui sont toxiques. Cela suggère donc que cette fameuse protéine Kibra pourrait être utilisé comme thérapie pour améliorer la mémoire après le début de la perte de mémoire. Ça offre un nouvel espoir, bien sûr, aux patients. La découverte de l'effet thérapeutique de Kibra représente un tournant dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Elle complète les approches actuelles qui offrent une stratégie ciblée sur la réparation et l'amélioration des synapses, ce qui est totalement indispensable, comme je l'ai dit, pour pouvoir restaurer la fonction cognitive et la mémoire. Cette avancée pourrait avoir un impact significatif à l'avenir, marquant un pas en avant dans le développement de traitements plus efficaces pour ceux qui sont touchés par cette maladie dévastatrice. Donc c'est une véritable révolution dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, avec la promesse donc de cette protéine Kibra, une approche qui ouvre des perspectives totalement inédites pour restaurer la mémoire affectée par cette maladie dégénérative sans cibler directement les protéines toxiques accumulées dans le cerveau. On suivra ça bien sûr avec un petit peu plus de compléments d'informations, peut-être aussi de compréhension pour savoir précisément comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est mis en jeu, enfin voilà, qu'on essaye d'avoir un éclairage un petit peu plus approfondi, mais je trouvais que cet article que j'ai trouvé dans Futura Science méritait d'être évoqué à l'antenne aujourd'hui parce que on comprend voilà qu'on est sur des avancées vraiment intéressantes au niveau du domaine médical pour ce qui est les recherches sur Alzheimer. Je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs fois dans cette émission, le cerveau c'est l'une des zones du corps humain où on a finalement très peu d'informations. On ne sait pas comment ça fonctionne. Enfin, on ne sait pas. On n'a pas encore tous les éléments pour bien comprendre comment fonctionne ce cerveau. C'est une zone qui est encore en pleine exploration et on découvre assez régulièrement des informations qui qui permet justement de, d'affiner un petit peu les pistes de recherche qui doivent être suivies pour essayer de trouver des, voilà, des solutions thérapeutiques pour ces maladies neurodégénératives. Et donc voilà, là c'est la protéine Kibra, c'est la première fois qu'on en parle dans cette émission. Je pense que ce n'est pas la dernière fois et donc on suivra cela bien évidemment. Des petites informations que l'on trouve dans Science et Avenir, dans les petites brèves du mois de mars, au niveau des fleurs, on constate que depuis 20 ans, les fleurs s'auto-fécondent plus. C'est-à-dire que avant, elles avaient une histoire d'amour qui durait depuis des millions d'années parce que chacun y trouvait son compte. La plante produit du nectar pour les insectes et en échange, les insectes assurent la pollinisation entre les fleurs, donc le transport du pollen entre les fleurs. Sauf que selon une étude de l'université de Montpellier, eh bien, cette alliance ancestrale, elle est en train de se rompre. Et pour le démontrer, les chercheurs ont fait germer des graines de pensée des champs qui ont été collectées dans les années 90 à 2000 pour les comparer à celles qui poussent aujourd'hui dans les mêmes champs du bassin parisien. Et les résultats sont effarants. En l'espace de 20 à 30 ans, on s'est rendu compte que leur production de nectar a diminué de 20%, tandis que le taux d'auto-fécondation a lui bondi de 27%. Samson Akokapidol, qui est l'auteur principal de cette étude, explique « 80% des plantes à fleurs disposent de cette capacité à se reproduire avec elles-mêmes, car elles sont porteuses à la fois des organes mâles et femelles, mais elle est souvent empêchée par des mécanismes moléculaires. Et pour cause, si cette adaptation permet actuellement aux plantes de faire face à la raréfaction des insectes et donc de ces fameux pollinisateurs, eh bien, elle n'est pas une bonne nouvelle sur le long terme, parce que l'auto-fécondation entraîne un appauvrissement génétique qui limite le potentiel adaptatif en cas de maladie. Ben oui, quelque part, on est dans la consanguinité, on va dire. C'est un peu cette idée-là. Et donc, du coup, il y a une difficulté à pouvoir s'adapter au changement environnemental. Le phénomène ne serait pas facilement réversible et le risque d'accélérer le déclin des insectes également. C'est un vrai cercle vicieux et qui a été constaté donc récemment par cette équipe de l'université de Montpellier. Enfin, autre petite information, une petite brève, concernant le sommeil paradoxal, cette période du sommeil caractérisée par des mouvements oculaires rapides et des rêves particulièrement vifs, eh bien, ça permettrait d'éviter que notre cerveau n'efface ses régions visuelles au profit d'autres. C'est une hypothèse récemment publiée par deux neuroscientifiques américains qui s'appuient sur la capacité du cerveau à adapter sa plasticité. C'est-à-dire que quand on dort, tous nos sens restent en éveil sauf un, la vision. Or, lorsqu'une activité sensorielle ralentit ou cesse, la neuroplasticité permet à d'autres zones sensorielles de s'étendre et de prendre sa place. C'est ce qu'explique Don Vogue, qui est l'un des deux auteurs de cette étude. Cela se manifeste notamment chez les personnes devenues aveugles, dont l'ouïe ou le toucher sont plus développés que la moyenne. Surtout, ce phénomène peut survenir rapidement, il est mesurable en quelques heures seulement. Il pourrait donc s'appliquer durant le sommeil, lorsque la vision est au repos. Sauf que 90 minutes après l'endormissement, en moyenne, le sommeil paradoxal et son caractère très visuel, parce qu'on est dans des rêves, prend le relais. Il permettrait alors au cerveau de maintenir en éveil le cortex dédié à la vision et de le protéger de toute autre invasion sensorielle. C'est-à-dire qu'on le met en veille, mais il ne faudrait pas qu'il se fasse prendre la place par d'autres. Un peu à la manière d'un économiseur d'écran d'ordinateur qui se mettrait en route toutes les 90 minutes. Et pour pousser plus loin la question, les chercheurs ont même comparé la neuroplasticité, le sommeil paradoxal au sein de 25 espèces de primates, et le résultat, c'est que plus le cerveau est doté d'une grande neuroplasticité, plus le besoin en sommeil paradoxal est grand, et les deux semblent bien corrélés. Donc voilà, les rêves protégeraient les régions visuelles du cerveau. On n'avait pas pensé à ça, en fait. Voilà pourquoi on rêve. On a découvert maintenant, en 2024, pourquoi on rêvait. Tout simplement pour que l'activité visuelle ne puisse pas se faire prendre la place. On n'aurait pas pensé à ça. Je trouve que c'est une conversation totalement intéressante que vous pouvez engager demain pendant le repas du dimanche de Pâques. Je dis ça, je dis rien. Et puis, pendant ce temps-là, on va écouter Aléla, Diane, sur l'antenne de Graphite. Thank you.
shoreline was out. I gazed out into the deep blue as the thunderous waves roared.
Paloma, c'était Allez la Diane sur l'antenne de Graphite. On continue dans cette émission Biotine à s'intéresser à l'actualité scientifique où il est question parfois des phtalates, des produits chimiques largement utilisés dans l'industrie du plastique et des cosmétiques. L'exposition à ces polluants peut se faire via les emballages alimentaires, mais aussi des molécules en suspension dans l'air que l'on respire. Ils sont décomposés dans le foie. Les produits de dégradation des phtalates se retrouvent ensuite dans les urines. Et c'est cette concentration qui sert à étudier les niveaux de contamination. Une équipe de recherche a estimé qu'environ 56 000 naissances prématurées en 2018 pourraient avoir été liées à ces produits chimiques. Les données proviennent de femmes qui ont participé au programme ECHO entre 1998 et 2022. Les chercheurs ont évalué les niveaux de 20 métabolites de phtalates dans des échantillons d'urine prélevés à 3 moments de la grossesse, qu'ils ont ensuite comparé à l'âge à la naissance et au poids à la naissance de chaque nouveau-né. Les résultats ont montré que 10% des femmes fortement exposées étaient presque 50% plus susceptibles d'accoucher prématurément par rapport à celles qui ont des niveaux plus faibles de ces substances. Les conséquences sur la santé des nouveau-nés ne sont pas négligeables. La survenue précoce du terme est associée à de graves conséquences cognitives. C'est ce qu'explique le docteur Leonardo Trasande, qui est le principal auteur de cette étude. Cette étude importante montre à quel point des produits chimiques omniprésents tels que les phtalates peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, d'autant plus quand on sait que des études épidémiologiques antérieures ont déjà démontré le rôle d'une exposition aux phtalates dans les processus inflammatoires et cancéreux, la perturbation de l'activité hormonale et notamment l'activité reproductrice, le risque d'obésité également. Malheureusement, c'est souvent aux consommateurs de déterminer quels produits pourraient contenir des phtalates et d'autres produits chimiques potentiellement préoccupants. Bien que la réglementation européenne impose une restriction dans l'utilisation de certains matériaux et un étiquetage de certains produits, cela ne concerne pas toutes les voies d'exposition et la législation en dehors de l'Union européenne n'encadre pas ces substances visiblement omniprésentes et plus dangereuses que ce que l'on savait jusque-là. Mais donc voilà, des produits chimiques omniprésents seraient responsables de naissances prématurées. Et donc voilà, on en sait... Enfin, quelque part, on a un peu une confirmation de ce que l'on pouvait supposer, on va dire. Autre des informations assez conséquentes concernant cette fois le dérèglement climatique. On va parler du Groenland. En Groenland, l'accélération du dérèglement climatique provoque un phénomène étonnant. C'est la naissance de petites îles qui étaient jusqu'ici emprisonnées sous la glace, une conséquence de la fonte des calottes glaciaires qui contribue à une élévation spectaculaire du sol rocheux dans cette région. C'est ce qu'expliquent des chercheurs danois. Alors que la montée des eaux menace d'engloutir de nombreuses îles et archipels dans le monde entier, eh bien, il se passe l'inverse au Groenland, où il y a de nouveaux îlots qui ont été découverts. Et la cause de ces apparitions inattendues, c'est bien sûr la fonte des calottes glaciaires. En effet, dans cette partie du Groenland, la disparition de la glace entraîne une élévation du sol rocheux susceptible de modifier la carte du Groenland. C'est ce qu'expliquent des chercheurs de l'Université technique du Danemark. Ils ont observé ce phénomène après avoir analysé des données qui provenaient de stations de mesure GPS au Groenland. Et selon leur étude qui a été récemment publiée dans la revue Geophysical Research Letters, le socle rocheux s'est élevé jusqu'à 20 cm dans certaines zones au cours des 10 dernières années. Ce phénomène n'est toutefois pas nouveau puisqu'il remonte à la dernière période glaciaire qui s'est terminée il y a environ 12 000 ans et qui a recouvert la masse continentale d'une épaisse couche de glace exerçant ainsi une pression sur le sol. La fonte de la glace provoque donc un mouvement vertical un peu élastique. Nous constatons que les glaciers périphériques produisent un rebond élastique significatif, en particulier au nord et à l'est du Groenland. Dans ces régions, les glaciers périphériques produisent jusqu'à 32% du rebond élastique, c'est ce que constatent les auteurs de l'étude. Mais le soulèvement des terres observé au Groenland ces dernières années n'est pas uniquement lié à l'évolution naturelle de l'ère post-glaciaire, c'est ce qu'affirment les chercheurs. Le Groenland se soulève beaucoup plus en raison des activités humaines. Grâce à nos données, nous pouvons isoler avec précision la partie du soulèvement terrestre causée par les changements climatiques mondiaux actuels. La fonte donc de cette glace au Groenland fait l'objet d'une étroite surveillance. Début janvier, des chercheurs californiens ont établi que la diminution de la masse glaciaire du Groenland a été plus importante au cours des 4 dernières décennies que ce qui avait été estimé jusqu'à présent. 2 mois plus tôt, une étude publiée dans la revue Nature Climate Change a analysé la fonte de plus de 1000 glaciers périphériques du Groenland. Bien que ces glaciers ne couvrent que 4% de la masse glaciaire du pays, ils représentent 14% de la fonte actuelle. Le Groenland perd tellement de glace qu'il y a des nouvelles îles qui surgissent, qui apparaissent. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, on est encore sur une illustration concrète et effrayante, bien sûr, du réchauffement climatique. Et toujours dans cette... comment dire, dans cette thématique, au moins 4 millions de personnes auraient perdu la vie en 24 ans à cause du réchauffement climatique. C'est une étude du centre médical de l'université de Georgetown aux États-Unis. En fait, c'est l'équivalent de la population d'une ville comme Los Angeles ou Berlin. C'est un chiffre qui paraît déjà énorme, mais il serait largement sous-estimé car personne ne compte vraiment. C'est ce que précise l'auteur de cette étude. Mais de quoi sont décédées ces millions de personnes ? Principalement des maladies diarrhéiques liées à la chaleur et à l'humidité, du manque de nourriture, de la malaria et des maladies cardiovasculaires. Le chercheur a utilisé en fait un modèle climatique pour calculer la hausse de certaines maladies pour chaque degré de réchauffement supplémentaire. Et chaque degré de plus entraîne par exemple une hausse de 5% des maladies diarrhéiques. En l'an 2000, alors que le changement climatique n'était pas encore pris au sérieux, 166 000 personnes seraient déjà décédées des conséquences de la hausse des températures. On est bien sûr sur une estimation, mais ça reste quand même un chiffre assez éloquent. L'auteur, qui est un biologiste spécialisé dans la prévention des pandémies, souhaite alerter sur l'urgence de ce fléau mondial. Alors que les différents gouvernements du monde se sont tous organisés pour faire face au Covid, aucun n'a pris la mesure des conséquences sur la santé du changement climatique. Environ 7 millions de personnes sont décédées du Covid, mais il est possible que le nombre réel associé au réchauffement climatique soit aussi élevé, ou même bien plus si l'on prend en compte le développement des maladies liées aux moustiques. De même, le calcul ne prend pas en compte les conséquences sur la santé de la fumée issue des feux de forêt, ni la hausse des suicides liés aux catastrophes météo qui détruisent la vie de ceux qui les subissent. Bref, on est bien sûr sur un bilan humain du réchauffement climatique qui est effrayant, mais un bilan humain qui est difficilement estimable. C'est-à-dire qu'on est vraiment là sur des données qui sont trop floues pour pouvoir savoir, un chiffre exact. Là, on est sur des estimations grossières, mais quoi qu'il en soit, ça reste des chiffres assez éloquent, assez significatif. Cette étude donc, qui estime qu'au moins 4 millions de personnes auraient perdu la vie en 24 ans à cause du réchauffement climatique. Voilà. On en parle toutes les semaines du réchauffement climatique, de toutes les conséquences, de toutes les illustrations, de tout ce qu'il peut y avoir. Et on ne parle pas souvent des solutions à apporter. Pour l'instant, je ne sais pas, on reste passif et spectateur de quelque chose qui est en train de nous submerger totalement. On écoute encore un titre sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après. On continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous êtes bien sur Graphite.
Quelle belle planète, tous le cœur en fête. On te remercie pour toute l'énergie. J'adore.
Les oiseaux,
j'adore.
On vole synchronisé,
j'adore.
La forêt,
j'adore.
Pousse sur les racines,
j'adore.
Cache à l'eau,
j'adore.
C'est son bruit caché l'eau,
j'adore.
Pangolin,
j'adore.
Sauver les pangolins,
j'adore.
J'adore. À ton trop tété.
À mort.
Trop tété. copain.
D'abord,
la cop on traitait
encore.
Planète, c'était Jojoa sur l'antenne de Graphite. C'était sympa, oui, il a bien raison, cette planète, on lui fait bien du mal. Chez les moustiques, se nourrir de sang n'a pas toujours été l'apanage des femelles. On a découvert dans un nombre de 130 millions d'années, découvert au Liban par une équipe internationale, montre que deux mâles dotés de mandibules tranchantes et de lamelles dentelées, tout l'équipement nécessaire pour être hématophage, hémato-sang, phage, bien adorer le sang. Donc, comme les femelles, les mâles aussi piquaient également. Nous pensons qu'à leur début, les mâles étaient capables de prendre des repas de sang et de les digérer. C'est ce qu'explique Dany Hazard, biologiste à l'Institut de géologie et de paléontologie de Nanking en Chine. Mais avec l'émergence des plantes à fleurs, une source énergétique plus efficace et plus sûre est apparue, le nectar. Les mâles auraient alors abandonné l'hématophagie et les pièces buccales qui allaient avec. Et les femelles, quant à elles, ont continué à se nourrir de sang, mais uniquement en période de gestation pour apporter à leurs œufs des protéines indispensables. Voilà l'évolution un petit peu des moustiques. On en sait un petit peu plus. Heureusement que les mâles ne piquent pas, en fait. Comme ça, on a moitié moins de population qui pique. Et c'est tant mieux. Mon Dieu, l'été revient et les moustiques vont revenir également. Ça fait peur, ça fait peur. Je voulais parler de cet article qu'il y avait dans Science et Vie qui voulait donner des informations sur le Gigantopithecus blacki, 3 mètres de haut, 250 kilos. Il est apparu il y a plus de 2 300 000 années au sud de la Chine et puis la mystérieusement, disparu il y a environ 300 000 ans. Une équipe internationale lève le voile sur ce cousin géant parce que c'est le plus grand primate ayant jamais existé. Le classement phylogénétique de Gigantopithecus blacki était un défi. Seuls 4 mâchoires et quelques milliers de ses dents ont été retrouvées. Or, les analyses ADN sont impossibles car les conditions chaudes et humides de la région ne permettent pas sa conservation. On a longtemps pensé que le géant était proche du gorille à tort. Nous avons utilisé sur les fossiles de dents une technique qui analyse les protéines plutôt que l'ADN et on s'est rendu compte qu'en fait que Gigantopithecus blacki était plus proche des orangs. Et grâce aux fossiles retrouvés, on a un petit peu plus d'informations sur le régime alimentaire de ce géant. Il était végétarien, il se nourrissait principalement de fruits riches en nutriments. Dans les forêts denses qui recouvraient alors l'Asie du Sud-Est au climat très humide, ça poussait justement toute l'année et dans des quantités suffisantes pour maintenir une population importante de ce Gigantopithecus blacki. dit, les géants étaient même plus nombreux que le Pongo Vindorichi, qui est une espèce de orang-outan plus petite dont les lointains descendants habitent toujours, eux, la région. Et en fait, on ne sait pas pourquoi il n'a pas, il a disparu il y a environ 300 000 ans. L'équipe a situé l'extinction du géant à peu près à cette période-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Ce dernier million d'années, la forêt tropicale a été remplacée par des arbres saisonniers qui produisent moins de fruits pendant la saison sèche. Or, la grande taille du singe demandait des apports nutritifs très importants. Tu m'étonnes, 250 kilos, si tu manges que des fruits, il faut quand même que tu en manges pas mal. Sa nourriture préférée a été de moins en moins disponible près du sol. Il s'est alors rabattu sur des aliments moins nutritifs, ce qui a conduit à son extinction définitive. Gigantopithecus blacki, il est apparu il y a 2 300 000 ans au sud de la Chine. Il a mystérieusement disparu il y a environ 300 000 ans. Peut-être que voilà, c'est le fait qu'il n'avait pas assez à manger, pauvre bonhomme. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez ? Autre chose concernant en Argentine, à quelques 4000 mètres d'altitude, dans l'un des environnements les plus hostiles à la vie, il y a un écosystème jusque-là inconnu des scientifiques qui a pu être étudié. Le fruit de ces recherches a été présenté il y a quelques semaines au congrès annuel de l'Union américaine de géophysique. C'est en avril 2022 que le géologue américain Brian Hynek et la microbiologiste argentine Maria Farias parviennent à un village perché à plus de 3600 mètres d'altitude sur le haut plateau de Puna de Atacama en Argentine. Et en analysant des images satellitaires de la région, Brian Hynek repère alors d'intrigantes étendues d'eau situées non loin de là et parvenu non sans mal bien sûr à rejoindre le site. Et bien les chercheurs découvrent un réseau de 12 lagons d'eau salée cristalline qui s'étendent sur une dizaines d'hectares et dont les fonds sont tapissés de ce qu'on appelle des stromatolites verts qui ne ressemblent à rien de connu. Ce sont les premières preuves fossiles de la vie sur Terre. Ces monticules rocheux ont été formés couche après couche il y a environ 3 à 4 milliards d'années par des communautés de microbes quand l'atmosphère de la Terre primitive était surtout constituée de dioxyde de carbone. C'est la photosynthèse de ces communautés probablement constituées de bactéries qui a permis d'augmenter la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre. Mais alors que ces stromatolites modernes sont relativement petits comparés à leurs ancêtres qui pouvaient atteindre 6 mètres de diamètre, et bien ceux de Puna de Atacama présentent pour certains des diamètres allant jusqu'à 4,5 mètres, c'est quand même pas mal, hein, plus proche justement de ce qui existait à l'époque. Une analyse plus précise des stromatolites de Puna de Atacama montre qu'ils sont constitués d'une couche externe de cyanobactéries et d'un noyau riche en organismes unicellulaires familiers pour des environnements extrêmes. En fait, il s'agit là de l'un des meilleurs laboratoires naturels permettant d'étudier les tout premiers développements de la vie sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, un écosystème primitif unique qui a été découvert en Argentine. C'est vraiment fascinant et assez original, bien sûr, de découvrir encore aujourd'hui des témoignages, quelque part, de ce qui existait à l'époque au niveau du déploiement de la vie sur Terre, bien évidemment. Allez, on écoute un dernier titre sur l'antenne de Graphite et puis on se dit au revoir, bien sûr. Thank you. Voilà, c'est sur Mirage de Molly Lewis que nous allons nous quitter pour cette émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous nous suivez sur le 94.9 sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet bien évidemment. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. On va continuer comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Je vous souhaite une très bonne journée. Et d'ici là, vous restez bien sûr fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite et à samedi prochain. Au revoir.